onde possible. Du 3 au 27 mai, Radio Agora devient onde possible. Tout de suite, interview.
Bonjour et bienvenue dans Onde Possible, la radio du festival Monde Possible, en ce moment au théâtre Nanterre-Amandier. Aujourd'hui, 12 mai, on reçoit Cécile Moreno, professeure de philosophie, ancienne nantérienne, auteure du livre « Tous les arbres ont des racines », un livre consacré à la naissance et aux premières années du théâtre des Amandiers, édité par la Société d'Histoire de Nanterre. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Il y a un peu plus de 50 ans, du 7 au 20 juin 1965, avait lieu le tout premier festival du théâtre des Amandiers. Alors, pourquoi Nanterre avait-elle été choisie pour accueillir ce festival ?
Alors, Pierre de Bosch est déjà installé en fait en région parisienne depuis quelques années. Il est en effet à Vincennes où il a fondé le théâtre Daniel Sorano. Mais suite à un acte de censure de la municipalité de l'époque, il refuse. En fait, la municipalité de l'époque refuse qu'il monte la pièce Le Roi Fin d'Andreïev. Pierre de Bosch et son équipe, notamment Monique Blin, Paul Savatier, Gonzalo Estrada, décident finalement de mettre un terme à leur présence à Vincennes. Et ils choisissent donc ils choisissent quand même de rester en région parisienne. Ils ont le souci de travailler en banlieue. C'est un public qui les intéresse tout spécifiquement. Donc ils vont envoyer des lettres de candidature à plusieurs villes, plusieurs municipalités. Et il s'avère que c'est la municipalité de Nanterre qui va être l'une des premières donc à les recevoir, à être intéressées finalement par leur proposition de festival. Et Pierre de Bosch va alors rencontrer Raymond Barbet, qui est le maire communiste de l'époque de la ville de Nanterre, avec son adjoint aussi, Jacques Pinault. Ils vont recevoir Pierre de Bosch et son équipe, et c'est ainsi en fait qu'une sorte d'amitié, d'une convergence, j'allais dire, entre à la fois un artiste et un homme politique avec une volonté culturelle forte aussi, que va donc pouvoir naître le Théâtre des Amandiers.
Et qu'est-ce qui lui plaît à Pierre de Bosch dans cette ville de Nanterre? Qu'est-ce qui le séduit? Pourquoi il choisit Nanterre?
Alors, Nanterre est une ville qui a un visage, qui a un paysage très contrasté à l'époque. C'est une ville qui est d'une part à 90% ouvrière. Une ville aussi qui est marquée dans sa chair, j'allais dire, par une forte présence de bidonvilles, mmh, avec des immigrés venus du Maghreb, essentiellement Algérie, Maroc aussi, et aussi des immigrés venus du Portugal et de l'Espagne. Donc cette couleur finalement de la ville, ces contrastes aussi intéressent bien entendu Pierre de Bosch, puisqu'il veut travailler en direction de publics qui ne sont jamais allés au théâtre. Hein. Donc Nanterre, c'est ça. C'est d'une part une ville en fait majoritairement donc ouvrière et puis marquée dans sa chair par des bidonvilles, mais c'est aussi une ville qui aiguise l'intérêt finalement de la part de la capitale, qui est en train de s'étendre vers l'ouest, et on a le signe fort finalement de cette extension de la capitale vers l'ouest à travers la création du CNIT en 58-59, mmh, et du quartier d'affaires de la Défense. Donc c'est une ville qui est assez un peu prise en étau, hein, et cette contradiction, ou c'est en tout cas ces paradoxes, intéressent Pierre de Bosch et son équipe.
Oui, et puis du côté de la municipalité, il y a aussi une vraie volonté d'établir une politique culturelle à destination de tous.
Exactement. Raymond Barbet est un maire donc qui est communiste, et finalement il y a cette idée aussi dans les années 60, un vrai souci de ce que l'on va appeler la décentralisation dramatique. On veut les maires qui dirigent les villes aux environs de Paris ne souhaitent pas, effectivement, souhaitent aussi avoir une offre culturelle forte et qui corresponde aux attentes des habitants. Parce qu'ils en sont convaincus, les habitants, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient immigrés, qu'ils soient travailleurs, ouvriers, donc ont besoin aussi de culture. Et pour eux, c'est une dimension qui est absolument essentielle. Donc, il va se passer... Nanterre n'est pas la seule ville. Hein. Il va y avoir aussi Aubervilliers, Saint-Denis, Gennevilliers. Donc, on va voir apparaître, justement, dans le cadre de cette décentralisation dramatique, de nombreuses opérations et qui vont donner naissance à des théâtres. Et qui vont s'installer, il y a cette volonté culturelle forte, effectivement, de permettre l'accès à la culture pour tous, quelles que soient finalement ses spécificités sociales ou son contexte, le milieu social d'où on vient, son travail, voilà.
Et tous ces artistes, et en premier lieu Pierre Debauche, avaient le goût du risque quand même, parce que ce n'était pas donné d'arriver comme ça et de s'installer dans un territoire quasi en friche au point de vue théâtral en tout cas.
Bien entendu, c'était un goût du risque, mais c'était véritablement, je crois que c'était toute une équipe qui était véritablement marquée et par ce souci justement de ne pas faire un théâtre conventionnel et de proposer une offre nouvelle. Et on va le voir d'ailleurs après en 68-69 à travers des expériences comme l'expérience du théâtre de quartier. Il y a cette envie de aller vers les publics et non pas simplement que la culture ne peut pas être simplement des institutions avec des portes qui peuvent apparaître fermées pour des publics qui ont peur un petit peu ou qui ne se sentent pas à l'aise aussi avec cette dimension. Donc il y a véritablement la volonté aussi de proposer non seulement du théâtre mais aussi des formes assez éclectiques, c'est-à-dire que le théâtre va toujours être le nerf finalement du travail de Pierre Debauche, mais on va aussi faire venir irriguer finalement la ville de Nanterre avec de la musique, en faisant venir donc des musiciens, des danseurs et on va voir que d'une extrême qualité bien entendu, avec une exigence forte.
Alors justement, le tout premier festival, c'était en 1965 sous un chapiteau de cirque qui regroupait à peu près 1000 places. Quelle a été la toute première programmation de ce festival et de Pierre Debauche ?
Alors déjà, c'est une spécificité, justement. La naissance du Théâtre des Amandiers naît sous la forme festivalière. Hein. Donc ça, c'est vraiment un caractère propre à Nanterre, au théâtre des Amandiers. Le festival va s'ouvrir, le premier festival va s'ouvrir avec un concert de Marcel Mouloudji. C'est un chanteur kabyle et à travers ce choix, il y a le souci de l'équipe, de toute l'équipe de Pierre Debauche et aussi de Monique Blin par exemple, de proposer, de toucher finalement et de sensibiliser la communauté, enfin tous les habitants des bidonvilles en leur disant voilà, on fait venir bien entendu un chanteur que vous aimez, que vous connaissez et qui porte aussi, bien entendu, non seulement peut-être vos difficultés, mais aussi qui porte une poésie quotidienne que vous pouvez, vous aussi, dont vous devez et dont vous pouvez vous emparer, quoi, en fait. Voilà, donc première ouverture, hein, elle se fait avec Mouloudji. Et ensuite, on va avoir des pièces de théâtre qui sont choisies par justement le fait qu'elles sont très peu connu du public. Notamment, je pense, la première mise en scène de Pierre va être Les Ennemis de Maxime Gorky. Maxime Gorky est un auteur qui n'est absolument pas connu du tout en France. C'est un acte fort de Pierre puisque c'est faire connaître aussi un auteur russe, soviétique, qui a le véritable souci de la condition des ouvriers, de la difficulté justement à vivre au quotidien quand on travaille de nombreuses heures par jour et qu'on a la fatigue des corps, la fatigue de l'esprit, voilà. Gorky était comme Debauche, quelqu'un qui était convaincu de la nécessité d'apporter justement de la culture à ces populations qui paraissent parfois éloignées justement de ces dimensions artistiques. Donc ça, c'était un acte très fort. Ensuite, il y a aussi cette idée de faire quand même connaître aussi des classiques. Donc Pierre Debauche va proposer La surprise de l'amour de Marivaux. Il va jouer aussi, il va mettre en scène Judith de Hébel, qu'il avait déjà mis en scène en fait à Vincennes. C'est une reprise. Et puis, il y a cette idée donc, qui est très villarienne. C'est à la fois d'associer donc, des œuvres très classiques, les faire connaître, mais aussi aller vers des auteurs moins connus et peut-être justement ouvrir des fenêtres, ouvrir des horizons pour que les gens puissent aussi aller vers de nouvelles découvertes. Voilà. Donc, au niveau des acteurs, il y a quand même la présence forte de Sylvia Monfort, Michel Marquet aussi, d'Yves Brinville. Et puis, on voit une actrice que j'aime beaucoup, qui m'a reçue avec beaucoup de sincérité et qui est très attachée justement à ses premières années, c'est Evelyne Istria. Voilà, qui va faire ses premiers pas aussi, finalement, d'actrice sous ce chapiteau et qui en garde des souvenirs extraordinaires. On va voir aussi, il va y avoir un deuxième festival. Entre le premier pardon, et le deuxième festival, il va se jouer un festival en hiver. Mm-hmm. On va voir, par exemple, Jacques Higelin faire ses premiers pas dans On ne badine pas avec l'amour. Et donc, c'est un grand moment aussi pour Jacques Higelin qui en gardait un souvenir très, très intense. Justement.
Alors, bilan de ce premier festival, 39 manifestations, plus de 11 500 spectateurs, dont les deux tiers, selon Pierre Debauche, n'étaient jamais venus au théâtre. Et ça, c'était essentiel pour l'équipe. Hein.
C'est essentiel parce que c'est le but finalement de leur présence à Nanterre et puis même, j'allais dire, le but de leur vie. C'est cet attachement à faire venir donc, des gens qui sont éloignés. On considère souvent que finalement les ouvriers ou les travailleurs ou les gens n'ont pas envie finalement d'aller vers la culture. On va leur proposer du divertissement, du sport.
Oui, uniquement. Que c'est pas cela qu'il leur faut.
Voilà. Et donc on décide pour eux. Et ça, je me souviens que dans les rencontres avec Pierre, il me disait toujours, mais justement, il ne faut pas décider pour les autres, il faut proposer des choses qu'on aime, proposer des spectacles de qualité, de haute tenue, et ça, il y tenait vraiment, c'était quelque chose qui était essentiel. C'était pas vraiment une sorte d'éclectisme qui faisait on donne de tout et pour tout, c'est pas ça du tout. C'était véritablement des spectacles qui étaient sélectionnés pour leur qualité et pour aussi leur éclectisme. Donc ce qui fait que justement on va se retrouver avec du théâtre, mais aussi par exemple avec Lily Laskin, la harpiste qui va venir jouer, Roger Bourdin, le flûtiste, les ballets Salvador Vargas qui viennent aussi. On va aussi, pour faciliter peut-être l'accès à cette culture, jouer des pièces en langue étrangère.
Et ah oui, ça c'est très étonnant ça.
On va jouer les Fourberies de Scapin, par exemple, de Molière, en arabe, en portugais, en espagnol. On va jouer aussi un peu plus tard du Brecht, pareil, voilà. Donc c'est l'idée de faire en sorte que les habitants de la ville, les Nanterriens, véritablement, s'approprient aussi une culture et se forgent aussi une culture pour affronter à la fois leur quotidien et puis l'avenir aussi, de façon peut-être pas plus sereine, mais en tout cas plus aiguisée, plus lucide et plus...
Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de cette volonté d'apporter de la culture, il y a aussi la volonté de créer un esprit citoyen, d'apporter une citoyenneté aux spectateurs. Et il y a une volonté très politique.
Une volonté très politique, et puis de donner la parole aussi, puisqu'à travers chaque fois, ça c'est quelque chose que Pierre a conservé aussi, c'est pas simplement de donner à voir, où finalement le public n'est pas simplement un spectateur, c'est aussi un spectateur, quoi, quelque part. Il doit prendre part, et souvent Pierre organisait, ce qu'il a toujours fait ensuite aussi après, des débats après ces mises en scène pour rencontrer le public, pour lui donner la parole, donner un temps de rencontre, d'échange et de discussion. C'était quelque chose qui pour lui était presque aussi essentiel finalement que la mise en scène en elle-même. Il fallait qu'il y ait ce retour, il était très attaché à ça.
Alors l'année suivante, donc en 66, nouveau festival dans un autre lieu, un lieu étonnant aussi, un hangar d'aviation désaffecté de l'ancien camp militaire de la Folie. Même éclectisme, vous l'avez dit, dans la programmation, avec donc de la musique, de la danse, du théâtre pour les enfants, un débat sur la science et la société, et une création de Pierre Debauche qui sera un immense succès, la pièce « Adieu, que la guerre est jolie ».
Alors, c'est effectivement, c'est devenu pour les Nantériens, mais par-delà aussi les frontières, c'est devenu une pièce véritablement mythique. C'est le grand succès, effectivement, de Pierre de Bosch dans ces années nantériennes. Alors, Adieu que la guerre est jolie, c'est une adaptation française, en fait, d'une pièce qui s'appelle Oh, what a lovely war, qui avait été écrite par Charles Chilton et qui avait été mise en scène par John Littlewood au Workshop Théâtre de Londres. Donc Pierre avait vu la mise en scène au Théâtre des Nations, puisque la pièce avait reçu le Grand Prix en fait, du Théâtre des Nations en 63. Et il avait été extrêmement touché et marqué par cette pièce. Alors, il a souhaité lui-même en faire une adaptation. Alors, c'est une adaptation qui est totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris le texte anglais, hein, le travail de John Littlewood, mais il a lui-même écrit. Alors, il a travaillé, il a fait un travail de titan, un peu comme j'ai fait pour ce livre. Il est allé chercher dans les archives des anciennes correspondances, des anciennes lettres et des anciennes chansons
de soldats
qui avaient été écrites donc durant la première guerre mondiale. C'est une pièce qui, effectivement, Adieu que la guerre est jolie. Donc le thème essentiel, c'est bien entendu la guerre, en lien avec la guerre de 14-18, mais pas seulement. Je crois que c'est un pamphlet finalement que Pierre a voulu faire là avec son équipe contre toutes les guerres, quoi. Et cette idée que j'aime bien la formule de Paul Valéry, il dit que en fait la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Donc c'est cette idée d'une absurdité comme ça et d'une extrême tragédie, c'est absolument insupportable, cette idée d'aller jeter des soldats finalement au nom de quoi fait-on la guerre et pourquoi serait-elle si jolie. Donc c'est un véritable pamphlet contre la guerre. Et puis on est quand même pas loin aussi, on est 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas un texte qui est uniquement axé, centré sur la Première Guerre mondiale. C'est son territoire, bien entendu, mais par-delà la Première Guerre mondiale, on voit aussi une critique, bien entendu, de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, on vient de sortir de la guerre d'Algérie, on est en pleine guerre du Vietnam, oui. Donc il y a tout ce contexte-là. Donc c'est une pièce qui est très militante. Et je crois que en ayant rencontré aussi pas mal de spectateurs qui ont vu hein, cette pièce, ils ont été touchés par le fait qu'elle était à la fois tragique, mais en même temps comique. C'est le grand tour de force, là, je crois, de Pierre, de Bosch, ça a été justement de montrer cette absurdité tout en étant très respectueux finalement des souffrances, mais en même temps en prenant le contre-pied par le rire, qui est finalement une arme aussi, mais qui permet justement de mieux s'en sortir avec tout ça. Pierre avait son papa qui avait fait la bataille de l'Isère, donc il était personnellement très très touché. Son père va mourir au début des années 40, suite des blessures qu'il a contractées durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est à la fois quelque chose de très intime et à la fois de très collectif. Et je crois que le public a retrouvé cette double dimension qui l'a profondément touché. Et tous les acteurs que j'ai pu aussi interviewer, puisque le livre est composé aussi de témoignages inédits, notamment par exemple je pense à Diego Masson, le fils d'André Masson, grand peintre, me disait c'est ça, il arrivait à nous toucher intimement mais à nous faire finalement cicatriser un peu tout ça par le rire et par le fait qu'on prend de la distance aussi, mais par contre on reste très militant, très engagé en refusant justement de se plier à ce diktat de la violence, quoi.
Six représentations étaient prévues, je crois qu'il y en a eu plus de 400 à Nanterre, mais bien sûr ailleurs, puisqu'il y a eu des grandes tournées en France. Donc ça a vraiment été un succès incroyable, 250 000 spectateurs.
Et puis Pierre l'a repris aussi à Agen, au Théâtre du Jour à Agen, qu'il dirigeait. et il l'a reprise justement, il l'avait remodernisée avec ses élèves aussi, hein, du théâtre du jour à Agen. Donc c'était quelque... c'est une pièce qui finalement l'a suivie, qui est très attachée, enfin, à laquelle il était très attaché et à laquelle il accordait bien entendu une importance capitale, puisqu'on le voit, les guerres ne cessent de s'enchaîner. Encore aujourd'hui, le contexte nous demande de nous, peut-être de nous rappeler à ces enseignements qui nous livrait dans cette pièce, où on retrouve quand même à la fois des Pierrots, des Colombines, qui sont interprétés par des acteurs de talent, Benoît Alman, Pierre Bayot, Armand Babel, il y avait Marc Monseigneur aussi, André Chaumont, que j'avais rencontré juste quelques mois avant sa disparition à Paris, Pierre Decazes, Jean-Claude Degrosse, enfin voilà. Au niveau des actrices, il y avait aussi Dany Dauberton, et puis Charlotte Maury, René Duncan, Manny Berthod. Bon, c'est quelque chose qui était assez... c'était une pièce qui reste dans la mémoire aussi visuellement, puisqu'il y avait des... les acteurs étaient déguisés, enfin, endossés des costumes de Pierrot ou de Colombine. Mm-hmm. Donc on est toujours dans une poétique très Pierre de Bosch, parce que c'était un grand poète, effectivement, pour parler des choses les plus graves.
On passe sur l'année 67, où le festival se tient encore dans un autre lieu, dans le gymnase du Palais des Sports. Et on arrive en 68, où le festival était prévu en automne cette année-là. Alors, il faut préciser que depuis 65, l'équipe des Amandiers propose pendant l'année, entre les festivals, diverses manifestations culturelles en ville. Ça va des concerts éducatifs dans les écoles, des représentations théâtrales, un festival de cinéma aussi, avec des choix très audacieux. Donc, l'équipe voulait absolument maintenir un lien culturel. C'était très important pour l'équipe des Amandiers, un lien culturel permanent avec les Nanterriens. Mais il fallait quand même aussi partir en tournée, et surtout pour des raisons financières.
Oui, et puis, alors, mai 68, c'est... Enfin, l'année 68, avant, n'arrivons pas directement à mai 68, mais l'année 68, c'est quand même aussi une période de transition, comme vous venez de le dire, puisque les premières années du Théâtre des Amandiers sont festivalières, de 65 à 67. Et l'année 68, elle doit finalement, on est un peu en, ils sont un peu, l'équipe est un peu en expectative de cette fameuse maison de la culture,
oui,
qui doit être livrée finalement, oui, en 69. Mais qui va, les financements peinent à être obtenus véritablement. Donc l'idée, c'est finalement en 69 d'avoir un bâtiment provisoire et ensuite de pouvoir véritablement installer un véritable théâtre, quoi, créer un véritable théâtre qui pourrait, on l'espère, sortir de terre dans les années 60, 71, 72, 73. Bon, ça va pas se passer comme ça, puisque le théâtre, ça va être...
Oui, le théâtre qui existe, ouais, est sorti de terre en 76.
Voilà, alors 69, rue Greuze, finalement, il y aura ce bâtiment, premier bâtiment provisoire, maison de la culture. Et ensuite, il faudra attendre quand même 76 pour que le théâtre actuel, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, puisse prendre jour. Donc c'est véritablement pour 68, l'année 68 est une année de transition. Est-ce que vous disiez, c'est ça, c'est comment on fait? Parce qu'on est présent, le nom du théâtre, l'appellation Théâtre des Amandiers est connue. Les habitants montrent qu'ils veulent un théâtre, puisqu'il y a des pétitions et qu'on se mobilise, tout le monde se mobilise, hein, artistes, élus, habitants, pour véritablement avoir cette maison de la culture. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, il va y avoir plusieurs initiatives. L'idée, c'est que cette période aussi de transition, elle va être aussi marquée par l'envie, malgré tout, d'une continuité. Mmh. Et cette continuité, malgré les bouleversements, comment faire? Eh ben, de mai 68, ça va être du 20 mai au 13 juin. Un comité de grève de théâtre donc, va assurer 160 interventions.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a grève, mais ils n'ont, oui, jamais autant travaillé quasiment,
exactement,
que pendant la grève.
Voilà. Et donc, on se met, le comité, alors concrètement, hein, le Théâtre des Amandiers se met en grève le 19 mai. On démonte aussi des expositions qui avaient été prévues parce qu'il y a véritablement de la part de Pierre Debosch et de toute son équipe le souci d'être solidaire, bien entendu, des étudiants et des ouvriers. Mais en même temps, la nécessité aussi de montrer que la culture elle doit être présente pour précisément soutenir. Donc on ne peut pas arrêter toutes les activités. Ils ne le veulent pas, ils ne le souhaitent pas. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, que c'est du 20 mai au 13 juin. Donc le comité, il y a un comité de grève du théâtre qui s'organise. Ils vont intervenir dans pas mal d'entreprises, oui, notamment une quarantaine d'entreprises en fait, qui sont à Nanterre, mais pas seulement, aussi dans la banlieue ouest, de toute la banlieue ouest. Et on va diffuser des films, par exemple Le voleur de bicyclette, Casque d'or, Les raisins de la colère. On va aussi, ça c'est important pour l'équipe, ils sont soutenus par des chanteurs et des chanteuses qui sont véritablement engagés, comme Francesca Soléville, Colette Mani, Hélène Martin, Louis Cilia. Donc ils viennent chanter mais spontanément, c'est-à-dire qu'on leur demande
bénévolement, de façon militante en fait.
Voilà, de façon militante. Et puis on propose aussi des lectures spectacles. Alors là, on va présenter par exemple les jours de la commune, on va faire des montages poétiques. On note aussi, ce qui est important, mais la présence d'Antoine Vitesse, qui va aller faire un montage poétique autour des bains de Mayakovsky à l'usine Kléber à Colombes, le 26 mai notamment. Donc tout ça, c'est véritablement, on souhaite finalement être présent pour montrer, pas simplement soutenir, mais pour montrer que la culture, elle a sa part dans ce mouvement. Mmh. Et que voilà, il y a non seulement des revendications sociales, économiques, politiques, mais que la culture, justement, elle fait partie intégrante des revendications.
Oui, et puis cette action culturelle qui est très politique, donc elle se poursuit même pendant l'été, puisque les élèves de Pierre Debosch vont aller donner des représentations dans les centres de vacances de tourisme et travail.
Voilà, alors on continue et c'est très important parce que je crois que c'est en 68, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est cette idée d'une fracture, on va le voir suite à la déclaration de Villeurbanne, entre le metteur en scène créateur et puis le metteur en scène animateur. Ça, pour Pierre Debosch, la question, finalement, elle est tranchée immédiatement. Le metteur en scène est aussi animateur et c'est quelque chose qu'il porte fermement et avec sans ambiguïté. Donc, il faut, bien entendu, maintenir du lien, il faut aller animer. Et c'est pas, ça n'a pas un sens péjoratif ou négatif à ses yeux. Oui. Au contraire, portons la culture là où on ne l'attend pas, là où finalement aussi, peut-être, elle est la plus nécessaire, la plus urgente. Il y a véritablement des besoins, donc on continue. Ça va être un grand débat, puisque national aussi, puisque des gens comme Roger Planchon ou même Patrice Chéreau vont aller vers une forme de théâtre qui pose comme étant évidente et nécessaire le fait que le metteur en scène doit être créateur, il n'a pas à s'occuper finalement de l'animation. Sont deux choses très différentes. Il va y avoir une vraie scission là qui se passe et qui va faire aussi du coup que Pierre Debosch va peut-être, en tout cas son action va être, et le théâtre qu'il va faire va être peut-être moins visible, mais tout aussi nécessaire que celui effectivement de Planchon, de Chéreau, qui vont travailler de façon très très pertinente aussi, avec de grands décors, avec de grandes installations, avec des moyens beaucoup plus conséquents. Mais ce sont deux théâtres qu'il ne faut pas opposer, deux théâtres qui existent, mais dont finalement ce théâtre militant a été parfois un peu mis à l'écart, oui, ou méprisé. Et je crois que c'est une grave erreur, parce que véritablement ce militantisme et cet engagement politique auprès des populations et des habitants qui sont pas nécessairement qui n'ont pas accès à cette culture nécessairement spontanément est absolument nécessaire si on veut toujours porter cette philosophie, cette idée que il faut aider les gens à devenir citoyens, en tout cas peut-être peut-être pas les aider, mais en tout cas leur donner les moyens, les clés pour le devenir à part entière. Et être citoyen, ça veut dire habiter la cité, ça veut dire être capable de choisir, être capable aussi de dire non, de renoncer ou de refuser. Donc voilà, donc ça c'est très important. Je crois que Pierre a dû souffrir effectivement à certains moments de son existence de cette distinction très claire entre ces deux formes de théâtre et il a continué à œuvrer malgré tout et avec une ferveur et un engagement qui sont absolument merveilleux quoi.
On continuerait bien comme ça pendant des heures, hein, mais l'émission se termine. Alors, vous saurez la suite des aventures de Pierre Debauche et du théâtre des Amandiers en lisant l'ouvrage de Cécile Moreno, Tous les arbres ont des racines, que vous pouvez trouver à la Société d'histoire de Nanterre et à la librairie du théâtre. Alors, pour conclure, une dernière question, Cécile. Selon vous, qu'est-ce que cette première équipe des Amandiers, emmenée par Pierre Debauche, a apporté au théâtre contemporain? Pardon. En quoi a-t-elle contribué à la naissance d'un nouveau théâtre ?
Alors, je crois qu'elle a, elle a contribué déjà à l'existence de ce bâtiment dans lequel on est. J'ai choisi le titre « Tous les arbres ont des racines » parce qu'il me semble que souvent, on voit la partie, j'allais dire, visible des choses. Bon, on peut se tromper, ça peut être un trompe-l'œil, mais en tout cas, on voit la partie visible et on oublie souvent... qu'il y a aussi une partie invisible. Et en l'occurrence, dans l'arbre, on voit les branches, on voit les feuillages, on voit les fleurs éventuellement, mais on ne voit pas nécessairement les racines. Ben, j'allais dire que ce que Pierre Debauche et son équipe, et j'y tiens vraiment, Monique Blin, Paul Savatier, Pierre Damien, Marc Bonseigneur, j'en oublie beaucoup, mais ont fait, c'est qu'ils ont permis à cet édifice aujourd'hui que l'on voit d'exister, en tout cas d'avoir un socle absolument solide, avec des habitants aussi qui ont été formés justement, parce qu'aujourd'hui les gens qui vivent à Nanterre ont dans leur cœur et sont marqués aussi par cette présence de Pierre Debauche et de son équipe. Donc peut-être pas un théâtre nouveau, mais en tout cas un théâtre dans la ville, un théâtre citoyen. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Cécile Moreno, d'être venue aujourd'hui au Théâtre Nanterre-Amandier dans ce bâtiment qui a donc été inauguré en 1976 et qui va être bientôt restauré. Alors, on vous retrouve dans quelques instants dans le hall du théâtre pour un échange en public avec Romain Faure, metteur en scène et ancien scénographe de Pierre Debauche. L'après-midi continuera ensuite sur Ondes Possibles avec à partir de 14h la retransmission en direct du début seulement de la performance « Les héros de la pensée ». Puisqu'il s'agit de 26 heures de réflexion pour envisager un autre monde possible. Et à 19h, retransmission depuis l'Agora d'un débat avec Christine Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, autour d'un insecticide dangereux, interdit en métropole mais encore utilisé aux Antilles, le chlordécone. Bonne fin de journée.
Merci.